Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute d'illustration jeunesse, de production artisanale et d'entrepreneuriat créatif avec Stéphie Brocoli. Mais avant, nous remercions aujourd'hui nos nouveaux contributeurs et contributrices. Un immense merci à Oriana Etchemendi, Cécile M, Maria Sellar, Gwen, Jeanne Guérard, Michael Fortuna, Jeanne Avril, Manuel Aldeguer, Timch, Olive Bouger, Katie Horner, Jessica Jean-Paris, Yann Drinik, Laura Daniel, Clément Romier, Alexandre Kerak, Sophie Navas, Maeva Brand, Annelise Moreno, Ambre Guillou, Céden, Cécile Chico, Béax, Anne Jamati, Justine Jacot, Gaël Correa, Benjamin Flou, Sandra Muller, Philippe Delpech et Camille Alessandroni. Un grand merci.
Bah, voilà la liste.
Ouais, ça en fait du monde. J'espère que j'ai écorché personne. Pour permettre à l'émission de continuer cette année, on s'est donné pour mission d'atteindre 500 contributeurs d'ici la fin de l'année, avec un objectif intermédiaire de 350 contributeurs d'ici l'été. Atteindre ces objectifs nous permettra de faire perdurer l'aventure du podcast sereinement et dans de bonnes conditions. Nous sommes désormais à 235 contributeurs. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur Patreon ou Tipeee. On vous rappelle d'ailleurs ce mois-ci que si vous rejoignez le Patate Club, il y a des cadeaux à gagner. Nous faisons gagner 3 cartes cadeaux d'une valeur maximum de 150 euros, valables à la Slow Galerie aux 3 personnes qui auront convaincu le plus d'amis créatifs à rejoindre le Patate Club en nous soutenant sur www.patreon.com/senscreativepodcast ou sur www.tipeee.com/sens-creative-podcast. Les liens pour participer et nous soutenir sont dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour cette toute première interview de l'année. Stéphie Brocoli, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Stéphie.
Salut, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée.
On est trop content de débuter cette saison 5.
Bah ouais, c'est super.
5 en ta compagnie.
Bravo.
Et alors, tout de suite pour commencer, Stéphie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, brièvement, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin ?
Alors, je m'appelle Stéphie Brocoli, je suis illustratrice la plupart du temps. Je me définis aussi un peu en tant qu'artiste parce que je fais pas mal d'expérimentations à côté, de la céramique, des tapis. J'adore essayer tout un tas de techniques, donc j'ai un peu deux pratiques différentes, la pratique de commande en tant qu'illustratrice et ma pratique plus personnelle en tant qu'artiste. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est fabriquer des choses. Voilà. Je suis hyper contente quand je me lève pour fabriquer des choses de mes mains. J'aime un petit peu moins les journées où je me lève pour me mettre à l'ordinateur.
C'est vrai. Ça te motive moins.
Ouais, ça me motive un peu moins, mais ça fait partie de mes deux casquettes et les deux se complètent et les deux sont importantes dans ma vie. Les commandes me stimulent pour faire des projets perso et vice versa. Tout se mélange un peu, des commandes vont déboucher sur des projets perso, des projets d'expo. Mes commandes vont m'amener à aller dans les écoles, rencontrer les enfants,
faire des ateliers.
Quand je fais des ateliers dans les écoles, après parfois on me commande des ateliers pour les musées. Donc c'est à la fois un peu de la commande parce que je travaille avec un brief en fonction des expos pour lesquels on me sollicite, mais en même temps, ça fait aussi partie de mes projets perso, de faire du papier mâché, des trucs d'enfant, mais que que je
en fait,
fais pour
c'est,
moi.
En fait, c'est comme une tuyauterie où t'aurais en fait rassemblé tous les tuyaux et ils communiquent les uns avec les autres et ça t'amène en fait d'un boulot sur un autre. Ouais. J'avais vu aussi que tu aimais beaucoup, parce que tu n'as pas d'originaux quand tu travailles pour de la commande, que t'aimais beaucoup justement faire des produits dérivés de tes propres histoires, des choses comme ça en fait.
Ouais, ben en fait pour les livres, je travaille principalement à l'ordinateur. J'ai une tablette Cintiq. Je travaille plutôt sur Illustrator parce que ça me permet d'agrandir, de rétrécir mes dessins, alors que sur Photoshop, c'est plus compliqué. Enfin, j'adore le dessin vectoriel. Pour les commandes, c'est vraiment le plus pratique parce que les clients me demandent de faire plein de modifs, des couleurs, tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'origine, comme tu dis, Laurent, pour les expos, c'est un peu frustrant parfois.
Et je connais ça.
la dernière fois, j'ai fait une expo au musée de poche à Paris, qui est... un petit musée, galerie, librairie, atelier pour enfants, enfin un super endroit. Si vous connaissez pas, je vous recommande d'y aller. C'est vraiment génial. Ils ont une sélection hyper cool. Et donc ils m'ont proposé une expo sur un de mes derniers livres qui s'appelle Mon Atlas promenade autour du monde chez Larousse Jeunesse. Et j'avais pas envie de mettre des illus imprimés sur une imprimante au mur. Donc, en fait, j'ai créé des tapisseries en tissage. J'ai refait des gouaches, mais inspirées du livre. En fait, j'ai un peu fait l'inverse, quoi. J'avais tous mes dessins à l'ordi et je les ai repris avec des techniques manuelles. Et puis, donc, on a imaginé tout un petit cabinet de curiosité avec à la fois des objets que j'ai chinés pendant mes voyages, à la brocante, ce genre de trucs. Donc, voilà. Je fais l'inverse de ce que font les autres d'habitude.
C'est hyper beau. Et toute ta production est hyper impressionnante. Et on pourra aborder les différentes parcelles de ta production. Et avant de plonger dans tout ça, vu que ton travail est vachement tourné, pas que, mais quand même beaucoup autour de l'enfance, j'avais envie de plonger un petit peu avec toi dans ton enfance, justement, ton rapport au sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Quels sont certains de tes meilleurs souvenirs liés à cette époque? Et puis, en quoi ça a été une période fondatrice pour ton travail, vu que ça déborde de partout dans ton boulot, quoi?
Alors, j'ai grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand pour être exact. Ma maman est institutrice, donc elle a eu tous les niveaux de classe. Quand j'étais petite, je finissais souvent mes journées dans sa classe, à aller lire des livres, à faire des coloriages avec les enfants. Elle a toujours été branchée très loisirs créatifs. Elle nous faisait tout le temps faire de la pyrogravure, enfin tout ce qui nous passait sous la main pour nous occuper pendant les vacances scolaires et les week-ends.
Et toi, ça te barbait pas, quoi? T'adorais ça?
Ah non, j'adorais. Enfin, mes parents habitent dans un chalet en bois. Ma mère a pyrogravé tous les montants du balcon avec des fleurs et tout. Enfin, donc, je pense que de l'avoir vu faire, moi, j'adorais. Une de mes mamies était assistante maternelle. Donc, c'est pareil. J'étais souvent avec elle dans son école. Elle s'occupait des ateliers couture, bricolage, cuisine sur le temps de midi parce qu'elle adorait ça. Donc, dès que j'étais chez mes grands-parents, pareil, on faisait des activités manuelles. Et à côté de ça, mon papa est hyper bricoleur. Il a construit le chalet dans lequel habitent mes parents. Donc, depuis toute petite, il a construit notre piscine. Il savait pas du tout construire de piscine, mais je sais pas, il a regardé plein de tutos et il a fait ça un peu pour nous. Donc, je l'ai toujours vu bricoler.
Do it yourself.
Ouais, grave, voilà, c'est ça. Et puis voilà, il a fabriqué des choses concrètes qu'on a pu utiliser, dans lesquelles on habite, on se baigne l'été. Donc ça fait vraiment partie de mon enfance, quoi. Enfin, c'est rigolo, mais par exemple, je me souviens d'une fois, mon père, pour nous occuper, il nous a donné une planche avec des clous et il nous a dit, maintenant, vous apprenez à planter des clous tout droit. Enfin, c'est un souvenir d'enfance.
Ah ouais.
Et j'étais hyper fière de planter mes clous. Voilà, donc je pense que d'avoir vu mes mamies aussi me coudre des costumes quand j'étais petite. Enfin, à aucun carnaval, j'ai eu un costume acheté dans le commerce. Ma mamie m'emmenait choisir le tissu. Je choisissais mon modèle de robe de princesse. Du coup, je me retrouvais avec des robes de princesse roses à paillettes, avec des traînes pour le carnaval. Tout le monde me marchait sur la traîne, mais j'étais hyper contente, quoi. Donc voilà, ouais, je pense que ma famille a toujours été assez... Enfin, ils sont pas artistes, mais ils ont toujours baigné dans ce truc, que ce soit des loisirs créatifs ou du bricolage. Et moi, ça m'a donné envie de faire pareil qu'eux. Après aussi, le fait que ma maman soit institutrice, on a toujours eu beaucoup de livres pour enfants à la maison. Elle-même continue d'en acheter pour sa classe, elle me les montre. Et une petite anecdote, ça va vous faire rire, mais elle m'a dit quand il fallait apprendre à aller sur le pot et que j'étais bébé, elle me mettait sur le pot avec une pile de livres à côté et du coup, je passais des heures sur le pot.
Forcément, tu ne veux plus partir. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, peut-être une technique pour les jeunes parents. Si
moi, ça m'arrive toujours. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, bon, nous, on continue d'avoir une bibliothèque dans les toilettes à la maison aussi.
Vous savez, il y a un truc qui est super fun. C'est quand vous allez chez des gens et ils sont un petit peu fans, amoureux de bouquins, vous savez qu'il y a une petite visite dans les WC qui s'impose. Il y a toujours des mini bibliothèques. Et en fait, on fait toujours des découvertes de dalle, quoi. J'adore.
Ah, mais lire aux chiottes, c'est merveilleux. C'est triste qu'aujourd'hui, c'est remplacé par le téléphone, hein. Avouez dans le chat. Qui est sur son téléphone au chat?
Je me suis fait avoir avec une BD, en fait, de Tiffany Cooper la dernière fois. Et en fait, il y avait une vanne où elle se moquait des gars justement qui disaient des trucs aux chiottes. Du coup, je lui ai envoyé la photo.
Trop bien.
J'ai balancé mon beau-père, mais ma femme me disait que quand ils étaient petits, quand le repas était terminé, ils allaient tout le temps aux toilettes. Et du coup, il se privait de corvée, de rangée, tu sais, avec le reste de la famille.
La bonne technique.
Voilà, voilà. Mais il y avait peut-être des livres intéressants. Donc, du coup, il y a l'enfance du côté de ta maman. Et du coup, il y a le bricolage du côté de ton papa. Alors oui, il y a les grands-parents aussi. Ouais. Donc, du coup, on voit que tout ça, quelque part, c'est un peu la matrice de qui tu es devenu aujourd'hui.
Ouais,
et que ça sort pas de nulle part. J'ai été voir ton taf. Je suis remonté dans tes vidéos YouTube. Jusqu'à 6-7 ans, et tous les trucs que tu fais de tes mains, les bijoux, les tapis tuffetés, les murs avec les enfants, toi, il y a tout ce côté vraiment manuel qui est hyper fort, et c'est rassurant de voir que quelque part, ça vient de quelque part, qu'on te l'a transmis aussi, quoi.
Ouais, ça, je m'en suis rendu compte, en grandissant, en réfléchissant un peu, quand on me demande d'écrire des biographies ou quoi, tout au long de mon enfance, je me rendais pas compte à quel point mes parents avaient de l'impact, finalement, sur quel adulte je suis devenue aujourd'hui. Mais aussi, je me rends compte que faire des choses de ses mains, pour moi, c'est tangible. En fait, c'est pour ça que les journées, par exemple, que je vais passer à la céramique, me rendent plus heureuse qu'une journée où je vais passer à l'ordinateur, parce que ce que je fabrique, ça existe tout de suite. Alors qu'à l'ordinateur, pour un livre, il faut attendre 6 mois, 1 an avant qu'il soit imprimé. Mmh. Alors, une fois qu'il est imprimé, je suis hyper contente, je suis hyper fière. Je me dis, ça valait le coup de passer des centaines d'heures à dessiner sur l'ordi. Mais c'est ça que j'aime avec les techniques manuelles. C'est que même si tu rates, tu as produit quelque chose de tes mains et ça existe tout de suite.
C'est vrai que c'est hyper gratifiant. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo aussi sur ton parcours avant de te lancer dans le grand bain de l'illustration?
Mon parcours, alors si on repart du début, j'ai toujours voulu faire un bac L art plastique. je voulais avoir l'option art plastique, on appelait ça l'option lourde, je voulais avoir 8 heures d'art plastique par semaine. Donc, je suis allée dans un lycée à Clermont-Ferrand, le seul lycée qui proposait autant d'heures d'art plastique. À l'époque, je pensais vouloir faire les beaux-arts ou ce genre de choses. Je ne connaissais pas les arts appliqués. Mmh. Et mon prof d'art plastique m'a parlé de la mise à niveau art appliqué. Donc, je suis allée aux portes ouvertes et là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce que présentaient les écoles en mise à niveau art appliqué. J'ai adoré justement qu'on puisse toucher à la fois au graphisme, au design textile, design d'objets. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas, ça devait être peut-être en seconde, je me suis dit, c'est sûr, je veux faire ça. Donc, j'ai bossé à fond au lycée pour avoir les meilleures notes, pour pouvoir passer les concours des écoles.
Il faut le rappeler, c'est important. Hein, il vérifie justement tout ce qui est parcours scolaire aussi, parce que les places sont chères, quoi.
Ouais, c'est ça. Il fallait avoir un bon dossier pour être sélectionné pour l'épreuve sur table à l'époque. Donc vraiment, j'ai tout fait pour avoir des bonnes notes. Et ensuite, j'ai été prise en mise à niveau appliqué à Moulins. En fait, c'était un petit lycée technique, mais j'ai fait le choix de plutôt tenter une petite école d'art appliqué que de tout de suite tenter les grandes écoles d'art où il y avait plus de candidatures et moins de chances d'être prise. En parallèle, j'avais aussi tenté les beaux-arts quand j'avais été prise, je crois, à Saint-Étienne. Mais bon, comme je voulais vraiment faire mise à niveau art appliqué, pour moi, c'était plus concret et j'avais l'impression que j'allais avoir plus facilement du travail par la suite. Donc voilà, j'ai fait cette année d'art appliqué. Pendant cette année, je suis allée au Salon du Livre de Montreuil. Et là, avec mes copains. Et là, je me suis dit, OK, tous ces illustrateurs derrière les tables.
C'est ça que je veux faire.
Dans la vie, je veux être derrière une table un jour à Montreuil à dédicacer avec
la première fois à Montreuil.
Voilà, je suis repartie avec un sac à dos qui devait faire 30 kilos avec plein de livres, mais c'était un choc. Je me suis dit, OK, c'est l'illustration que je veux faire. Ensuite, du coup, j'ai tenté les écoles d'art à Paris. J'ai été prise à l'école Estienne en graphisme. Donc, c'était un BTS graphisme, édition, publicité.
Tu voulais pas être prise aux arts déco et on t'a pas prise? Quelque chose comme ça?
Ah oui, si, j'ai tenté en MANA, je crois, les arts déco de Strasbourg.
Ah oui,
ah ouais.
C'était trop dur parce qu'on passait un entretien et on devait attendre le lendemain pour savoir si on passait une deuxième épreuve sur table. Donc moi, le soir, enfin je sais pas, on avait réservé 3 nuits à l'hôtel. En fait, le premier soir, je savais que j'étais pas prise, donc j'étais deg. Et puis je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais un carnet illustré avec l'illustration d'une autre illustratrice. Et pendant l'entretien, ils m'ont dit... Faites-vous cette illustration? Ils savaient très bien que non. Ça devait être un carnet, je ne sais pas moi, de Rebecca d'Outremer à l'époque. J'adorais Rebecca d'Outremer.
Bah oui, bref,
un truc dans le genre. Et depuis, alors ça m'a choqué aussi, depuis j'ai que des Moleskine noirs. Voilà, j'ai que des carnets comme ça.
La classe.
Plus d'illustrations. Vraiment plus jamais j'ai acheté de carnet illustré suite à ce concours. Mais bon, c'est pas grave. J'ai été prise à Estienne en graphisme et finalement, le hasard fait bien les choses. L'école Estienne à Paris, c'est quand même une école assez réputée.
Ah bah oui.
Pour les métiers du livre, avec un super laboratoire d'expérimentation graphique où on peut faire de la sérigraphie, de la gravure, voilà, des profs hyper passionnés. Donc j'ai passé 2 ans en graphisme. Je me suis vite rendu compte qu'en fait les logos c'était pas du tout mon truc. À l'époque j'avais dû faire le logo de la maison du hip-hop. Alors imaginez.
Il y a pire logo quand même.
Je l'avais pas fait du coup. C'était un projet. Mon truc n'avait pas du tout été sélectionné. Hein, mais voilà, des mises en page de magazines, c'était pas trop ma tasse de thé. On me reprochait tout le temps que c'était trop illustratif.
Ouais. Tu faisais des Mickey?
Non.
Ah bah moi c'est ce qu'on me disait, hein. Franchement, c'était voilà, soit tu faisais du graphisme, tu vois,
soit tu faisais des Mickey.
Soit tu faisais des Mickey. Moi, je faisais des Mickey.
Oui, bon bah alors
on s'en sort très bien.
Voilà. Mais du coup, parfois je comprenais pas, je me tapais des sales notes alors que je m'étais trop donnée sur l'élu, mais bon, juste en fait, je répondais pas au brief du graphisme quoi. La pub et tout, c'était pas trop mon truc. Et après le BTS, je me suis dit, bon ben, j'en ai marre des ordinateurs. Déjà, c'était un peu là. À Estienne, j'ai passé les concours pour rentrer en diplôme des métiers d'art. Alors, j'ai passé illustration et gravure. Donc, gravure sur bois, sur cuivre, tout ça. Et j'ai pas été prise en illustration. Alors, à l'époque, j'étais trop vexée. Donc, je suis allée demander des comptes à la directrice en disant mais pourquoi j'ai pas été prise, c'est trop ce que je voulais faire. Et en fait j'avais oublié de donner mon dossier de travaux.
Ah, ils peuvent pas faire des miracles là.
Fumble.
Ouais voilà, en fait voilà, bon c'est pas grave, j'ai été prise en gravure et franchement je suis pas mécontente parce que ça m'a donné en fait ça m'a permis d'accéder au côté plus artisanal du livre. En graphisme j'ai appris à concevoir des images et en gravure j'ai appris à les imprimer. Ce qui était génial en gravure, c'est que les profs ne nous notaient pas sur la qualité de nos illustrations, mais plutôt sur la qualité technique d'impression. Donc, on avait plutôt carte blanche pour les illus qu'on imprimait. Et là, ça m'a vraiment donné l'amour des beaux papiers, des techniques prestigieuses, le fer à dorer, le gaufrage. Et ça m'a donné accès à des machines folles, de luxe, quoi, en fait.
Oui, c'est clair. C'est la chance que tu as quand tu vas justement dans ces écoles d'art et d'art appliqué.
Ouais.
C'est que tu as vraiment accès à du beau matériel. Et c'est génial, ce petit accident, finalement, qui t'amène à découvrir quelque chose qui, aujourd'hui, fait vraiment partie prenante de ton travail. C'est-à-dire que t'as cet espoir au départ et un petit peu cette envie de dire, je veux être illustratrice, je veux faire des bouquins, tu as tes modèles, etc. Et t'as envie de faire comme les autres, comme ceux qui marchent, qui ont du succès. Mmh. T'as un accident. Tu oublies de rendre quelque chose d'important pour pouvoir être validé en illustration et tu te retrouves finalement sur un nouveau chemin quoi. Et ce chemin, t'es obligé de l'embrasser, t'as pas le choix, t'es obligé de t'y intéresser. Et puis du coup, c'est pour toi, c'est déjà une première révélation quoi.
Ah ouais, et puis j'ai passé les deux meilleures années de ma vie. Si vous avez l'occasion d'aller aux portes ouvertes de l'école Estienne et visiter les ateliers de gravure, mais c'est trop bien. Déjà, on était 12 par section. On avait des petits bureaux en bois, des profs qui étaient artisans d'art, qui bossaient pour des émirs, qui faisaient des trucs de dingue. On avait Françoise Petrovitch, qui est une artiste contemporaine, qui fait du dessin contemporain, moi qui m'a transmis la passion de faire des choses comme jamais. Donc c'était vraiment, ouais, vraiment des conditions idéales. Et puis voilà, j'ai appris à imprimer des livres à 30 exemplaires. Ça m'a donné envie, enfin ça m'a fait découvrir les fanzines, la micro-édition, les livres d'artistes. Ouais. Mine de rien, ça m'a aussi permis de rentrer dans le monde des éditeurs, parce que pendant mon diplôme des métiers d'art, j'ai fait un livre en gaufrage. Donc c'est en fait mon tout premier livre qui est sorti chez un éditeur, qui s'appelle « Il a neigé ce matin ». Et c'était vraiment un projet d'art plastique sur le thème de la neige. Et moi, en gros, j'avais fait des empreintes en creux dans le papier pour raconter des animaux qui se promènent dans la forêt enneigée. Et j'ai imprimé 10 exemplaires de ce livre. Pendant l'été, je suis allée chez un de mes profs parce qu'il avait des plus grandes presses qu'à l'école. J'ai sérigraphié une autre partie et je suis allée sous le bras... À l'époque, à Montreuil, il y avait des entretiens avec les directeurs artistiques. Donc moi, j'y suis allée avec mes gravures, avec ce livre, et je l'ai proposé à des éditeurs pendant les entretiens. Et ça a débouché sur mon premier vrai contrat d'édition jeunesse, quoi. Ouais, et puis un livre, vraiment, j'en ai pas refait d'autres comme ça depuis, parce que ça demandait des techniques de fabrication assez compliquées. Il a reçu le prix de la nuit du livre, qui est une distinction.
Génial.
Il y a plusieurs catégories, livres d'art, jeunesse et tout. Donc je crois que c'est en 2012. Mais voilà, c'est aussi grâce à mon passage en gravure que j'ai réussi à décrocher mon premier contrat chez un éditeur.
Et comme quoi, tu l'as bouclé, quoi.
Ouais, grave. Ben, en gravure, je savais que je voulais sortir de l'école et faire des livres pour enfants. Donc, je me suis donné les moyens. Après, j'ai travaillé dur. Peut-être que j'étais un peu chiante aussi parce que je me battais pour avoir accès aux presses de sérigraphie à côté des projets d'école. Déjà, avec des copines, on avait des projets perso. On faisait des petits fanzines sérigraphiés, on sérigraphiait des tabliers. Après, on faisait des petites expos où on vendait des jus de fruits et nos tabliers sérigraphiés. On avait négocié avec l'administration pour faire ça. Donc déjà, il y avait une certaine aussi motivation à faire plus que ce qu'on nous demandait à l'école.
Mmh. Ouais.
Voilà, pour aussi assurer ses arrières, je voulais pas sortir de l'école et me dire « Bon, bah allez, maintenant, la vie commence. » En fait, je voulais que ma vie professionnelle commence déjà à l'école. Aussi, à l'époque, je me souviens qu'il y avait une blogueuse que j'adorais, qui a un blog qui s'appelle Fine Little Day. Elle s'appelle Elisabeth Dunker et elle faisait plein d'illustrations. Elle allait rencontrer des artisans. Enfin, vraiment, j'adorais. Et du coup, à Noël, je m'étais dit qu'il ne tente rien à rien. Je lui avais envoyé un petit colis avec des petits livres sérigraphiés, des gravures, des trucs en disant que j'adorais son blog. Elle a parlé de mes petits livres sur son blog et en une journée, j'ai vendu toutes mes petites éditions sérigraphiées. Donc, je me suis dit, ah, cool, en fait.
C'était une influenceuse de l'époque.
Ouais, grave, bah vraiment le début des blogs.
Ouais.
Enfin, c'était pas le début, mais c'était le plein essor des blogs à l'époque. Il y avait pas Instagram, donc je m'étais dit bon bah je vais tenter le tout pour le tout, lui dire que j'adore son truc, que ça m'inspire, et lui envoyer un petit cadeau. Donc ça m'a aussi permis de me lancer parce qu'après elle m'a passé une commande de posters.
Ah oui.
J'avais fait une carte du monde, en fait. Voilà, mais ça, j'étais encore à l'école. Même pour le livre « Il a neigé ce matin », c'était pas mon projet de diplôme, c'était un projet en première année de gravure. Voilà, après, je m'y suis pris peut-être ouais, un an avant la sortie de l'école pour commencer à démarcher les éditeurs.
Ouais, ouais, t'as vraiment commencé à taffer, t'étais encore à l'école.
Ouais, ouais, et puis après, parfois, je me faisais engueuler par les profs parce que j'utilisais les papiers de luxe de l'atelier de gravure pour imprimer des trucs que je vendais après sur Etsy.
Donc j'étais bien connu.
Comment elle profitait, disons.
Ouais.
T'as bien raison.
Ouais, bah, chose que j'ai pas refaite depuis parce que je me suis rendu compte du prix des plaques de cuivre une fois que je suis sortie de l'école, du prix des papiers où ça coûte,
non, mais t'as raison de préciser. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans les écoles d'art, en fait, on a accès à des choses qu'on aura peut-être plus jamais accès. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces années-là pour en faire le maximum. Et comme tu le disais, pour faire vraiment des gros projets d'art, parce que après, quand tu es tout seul, quand t'es à ton compte, engager des projets comme ça, ça coûte énormément d'argent et de temps. Ouais. Et, pour pas forcément beaucoup de rémunération derrière. Donc on a toujours ce petit souvenir de ces moments passionnants qu'on a eu dans les écoles d'art, quoi.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Donc, si je comprends bien, tu commences vraiment ta carrière d'illustratrice dans le milieu de l'édition jeunesse et j'imagine aussi de la presse jeunesse. Donc, c'est un peu, tu crées ton filon dans tes premières années dans ce milieu-là, c'est ça ?
Ouais. En fait, j'ai été diplômée en 2012, juin 2012, et en octobre 2012, mon premier livre, Il a neigé ce matin, sortait en librairie. Sachant que entre temps aussi, quand j'étais en mise à niveau à appliquer, je savais du coup déjà que je voulais être illustratrice vu que j'étais allée à Montreuil. J'avais participé à un concours. Bon alors graphiquement, faut pas me juger si vous allez voir parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Il existait un concours qui, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Ouvrez les livres aux bébés. C'est un concours dans le Puy de Dôme où n'importe qui peut proposer un album jeunesse qui est ensuite offert à tous les bébés du Puy de Dôme. Donc ça fait genre, je sais pas moi, 10 000 bébés par an.
Ça dans certaines régions, municipalités, il y a vraiment, et puis de très très beaux livres du coup qui sortent par ce biais-là. J'en ai déjà vu des canons.
Dans le Val-de-Marne, on nous a offert un livre de Beatrice Alemania. Donc tu vois, c'est plutôt
cool. Trop bien. Certaines régions rachètent les droits, je crois, ou offrent un livre qui est déjà édité. Puis il y en a d'autres qui impriment un livre exprès. Bon là, il faisait un concours. Il fallait jamais avoir publié de livre. Et en fait, moi, pendant mon été de mise à niveau pour aller après à l'école Estienne, je me suis fait ça en projet d'été. Et en première année de BTS, on m'appelait pour me dire « Ok, t'as gagné le concours. Ton livre va être imprimé à 10 000 exemplaires, offert à tous les bébés. Encore une fois, je m'étais prise avant et j'y croyais pas du tout. Et j'avais fait un truc au crayon de couleur et tout, avec une typo horrible. Mais j'étais en mana, on peut pas trop m'en vouloir.
On peut pas juger.
j'ai quand même aussi profité, ça fait longtemps que je profite de mon temps libre pour faire des projets perso, pour essayer que ça débouche sur des projets professionnels. Mais voilà, donc pour en revenir après, en septembre 2012, je sors de l'école, mon premier livre est publié, et là, ensuite, il y a Actes Sud qui m'a commandé deux petits livres pour Little Villette. Donc, à l'époque, je ne savais pas utiliser l'ordinateur. J'ai tout fait en tradi. Ensuite, après, c'était parti. Une fois qu'on a un pied dans l'édition, après, on nous demande... J'ai fait des pages pour Pomme d'Api tous les mois. Et puis après, les livres nous amènent dans les écoles. Donc là, on peut aussi faire pas mal d'ateliers dans les écoles. Et c'est chouette aussi de rencontrer son public, de faire des trucs sur l'ordi, puis après de lire son histoire à des vrais enfants et de voir comment ils réagissent en vrai.
Ah ouais, non, mais ça, c'est super précieux.
Je me souviens, moi, je me suis lancé en 2013 et j'ai aussi pas mal commencé dans le milieu jeunesse. Je voyais tes illustrations, justement, dans tout ce qui était Bayard, Milan, Pomme d'Api et compagnie. Je t'avais déjà vu là. Et Laurent m'avait dit, parce que ceux qui connaissent bien le podcast savent que c'est Laurent qui m'a aidé à mes débuts, et il me disait... L'illustration jeunesse, c'est une super porte d'entrée. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes en illustration, mais c'est parfois un petit peu difficile d'en sortir. On se trouve un petit peu stigmatisé jeunesse et on arrive un petit peu difficilement à en sortir. Je me demandais un peu ce que t'en pensais, toi, parce que toi, t'as vraiment totalement assumé ce côté jeunesse. Il y a aussi tout ton travail personnel qui l'est moins. Mais cette stigmatisation, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, je suis complètement d'accord. On me sollicite principalement pour des projets jeunesse. Quelque part, c'est pas plus mal. Je sais pas si je serais à l'aise pour dessiner des trucs pour les adultes. J'ai fait quelques couvertures de romans. J'ai illustré toute la collection des livres de Blondin aux éditions de la Table Ronde. Donc là, j'ai essayé d'avoir un style plus graphique, moins jeunesse. Mais je me sens peut-être aussi un peu moins à l'aise... En fait, je sais pas dessiner autrement.
Oui, c'est ce qui sort de toi, c'est naturel.
Ouais. Mon dessin n'est pas très réaliste, il est un peu naïf, donc il m'apporte vers des projets jeunesse. Après, je pense que mes projets d'art plastique touchent un public adulte. Voilà. Après, c'est pareil. Par exemple, mon dernier livre qui s'appelle Raconte-moi, qui est édité aux éditions Maison Georges. Alors, c'est un livre pour enfants. En fait, moi, ça me tient à cœur de dire non, c'est un livre pour enfants et pour les adultes, parce que pour moi, c'est un livre à lire en famille. Et quand j'écris, je pense à la fois à l'enfant qui va lire et aux parents qui va s'en emparer pour passer du temps avec son enfant. Donc, à tous les gens qui me demandent des infos sur ce livre, je dis c'est un livre pour les enfants et les adultes.
Ouais, de toute façon, dans ton boulot, on voit que tu accompagnes les enfants. T'es, je veux dire, tu crées des livres pour eux, mais t'es avec eux, tu crées des ateliers, tu crées des fresques, t'es toujours avec eux. Mmh. Moi, j'ai vu une vidéo, là, justement, sur les fresques murales que tu fais dans les écoles. En tant qu'adulte, justement, qui devrait organiser ça, j'étais genre, oh là 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 là, la patience qu'elle a dû avoir, ou l'organisation. Parce que ta petite vidéo, elle est toute mignonne, hein.
Ouais.
C'est hyper choupinou, hein. Mais je me dis, en vrai, ça devrait vraiment être un bon salon. Et je sais pas si j'aimerais être à ta place. C'était comment, toi, un peu pour ça, pour toi, ce genre de projet?
Ouais, c'est, alors, les fresques avec les enfants, c'est une super chouette expérience, mais c'est un délire. surtout que moi, enfin, on me confie souvent les maternelles. Donc, parfois des TPS, donc, qui ont 2 ans. Ouais. Au CP, c'est mon public de prédilection. Alors, j'adore, c'est trop cool, mais ils savent pas faire grand chose. Donc, quand on peint un mur, il faut déjà, enfin, souvent, j'ai tracé, enfin, souvent, en amont, je demande aux instits de faire plein de dessins d'enfants, de faire plein de dessins aux enfants, à la ligne noire. Moi, je récupère les dessins et après, je m'en sers pour les redessiner en grand sur les murs. Les enfants, ils vont pas savoir dessiner eux-mêmes sur le mur parce qu'ils vont te faire un dessin tout minus dans une grande case. Mmh. Ça, c'est un truc que tu apprends en école d'art, hein, de dessiner au bon format à la main. Les cours de nu, ouais, non. Donc, c'est moi qui redessine le dessin. Et puis après, c'est moi qui leur dis, tu peins ça en bleu, tu peins ça en rouge. Mais les petits, déjà le temps de distribuer tous les gobelets de peinture. Il y en a un qui, enfin, le premier à qui t'a donné le gobelet de peinture, il aura déjà repeint son truc en te disant j'ai fini. Donc, t'entends j'ai fini à longueur de journée. Et l'autre, tu lui as toujours pas donné le gobelet de peinture pour qu'il commence.
Madame, ouais, je m'ennuie, je sais pas quoi faire.
Donc, et puis, entre temps, une fois que t'as donné le gobelet de peinture, t'en as un qui va repeindre au rouleau les cheveux de son copain. T'en as un autre qui va s'être repeint les chaussures Nike toutes neuves que les parents ont mis, ou le tutu de princesse.
Il faut du body art. Puis de la peinture sur textile.
Mais ouais, c'est trop tentant.
Et les parents te détestent.
Bah, pour moi, en même temps, j'ai fait passer un mot, tu vois, en disant, faut venir en tenue de peinture. Enfin, moi, j'arrive et les petits, ils hallucinent tellement je suis crade, j'ai mon pantalon de peinture.
Et puis, quand t'es papa-maman, tu le sais, hein, il y a atelier peinture, tu envoies pas ton enfant comme ça, tu le prépares pour le combat, quoi, quand même.
Bah ouais, c'est ça. Moi, là, je dis, c'est des chaussettes, enfin, des chaussures, en passant par les chaussettes, potentiellement en passant par le slip parce que la peinture peut transpercer si tu t'assois dans la peinture, tout quoi, tu t'habilles en tenue dégueu avec plein de trous, ça fait beaucoup rire les petits parce que tout le temps ils me disent que je suis sale et ils se demandent si je suis habillée comme ça tous les jours. Donc quand ils me voient habillée propre, ils trouvent ça bizarre.
Mais ouais,
c'est vraiment une organisation. Et après, pour les fresques, ben là pareil, je suis assez exigeante. Enfin, déjà, ça demande beaucoup de motivation de la part des enseignants. Parce qu'il faut que les enseignants revoient leur planning. Moi, je vais prendre des tout petits groupes d'enfants. Idéalement, je prends 5 enfants à la fois. Mmh. Parce que je veux passer vraiment un temps privilégié avec chacun, pouvoir leur expliquer...
transmettre et pas faire la police, quoi. Parce que
ouais, en fait, c'est ça. Aussi, voilà. On va pas à la piscine ou au cinéma. C'est pas une activité de consommation. Moi, j'ai besoin d'en tirer quelque chose autant que les enfants ont besoin d'en tirer quelque chose. Et du coup, je veux avoir au moins 10 minutes passées rien qu'avec chaque enfant pour pouvoir voir si celui à qui j'ai confié, je dis n'importe quoi, le quadrillage hyper précis, il est à l'aise avec ça. Je vais pas confier ça à un enfant... je sais pas, qui a des difficultés avec les choses, la motricité fine et qui va prendre plus de plaisir à passer du rouleau sans trop réfléchir. Enfin, j'essaye aussi de cerner et puis c'est aussi en collab avec les enseignants. Il y a certains enseignants qui vont me dire, ah non, lui, tu peux pas lui confier ce genre de tâches, mais lui, tu peux. Voilà, c'est pas mal d'organisation. Souvent, les enseignants sont là aussi pour m'aider, des parents parfois. Mais ouais, c'est assez intense, quoi. Et puis, il faut savoir que pour, par exemple, 3 heures passées à peindre avec les enfants, moi, j'ai 3 heures de retouche derrière. Parce que
ah
ça.
Ah oui, bah oui.
Bah, graphiquement, il faut aussi que j'y trouve mon compte et je ne veux pas laisser une peinture qui dégouline avec des applis qui ne sont pas propres. Donc, en fait, je vais repasser 5 couches de jaune derrière les enfants, je vais enlever toute leur dégouline.
C'est là où tu travailles bien fait. Puis les enfants, de toute façon, ils sont en phase avec toi. C'est-à-dire que même si tu repasses derrière, bah, pour eux, c'est t'as pas modifié, t'as pas changé, t'es pas intervenu pour modifier leur acte finalement pictural. C'est juste les finitions. Et les enfants le comprennent super bien. Et au final... Bah, ils ont un beau projet qui est terminé, ils peuvent dire fièrement, bah voilà, on l'a fait en équipe, quoi.
Ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment, parfois on entend, on dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont doués, les enfants, comme qu'est-ce qu'ils ont fait.
Ah oui, je suis passé derrière, madame.
En fait, c'est une collab. Enfin, c'est beau parce qu'ils étaient là, que j'aurais jamais fait ça sans eux, mais vice versa, quoi. Le résultat n'aurait pas été le même sans moi. Et j'essaye de transcender leur dessin, de tirer le mieux de ce qu'ils savent faire. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est une fois que tout est bien propre, après, je prends les plus grands, un peu les plus adroits. Et là, je vais leur donner un pinceau noir. Et je leur dis, OK, tu fais les yeux et la bouche. Alors, tu serres un peu les fesses.
Ouais, c'est parce que c'est la touche finale.
N'abîme pas ce que j'ai fait.
C'est ça, t'as tout bien incliné et tout. Et mais c'est trop bien parce qu'ils vont te faire la bouche parfois à l'endroit où tu pensais pas du tout qu'ils allaient faire la bouche. Tu es là, oh non, je pensais pas du tout à ça. C'est hyper cool où la bouche, elle est un peu de travers. Et c'est ça que j'aime trop dans les collabs avec les enfants.
Oui, voilà, ce qu'on appelle les accidents heureux que toi tu peux pas forcément prévoir. Et quand tu le donnes finalement à quelqu'un d'autre, pas forcément un enfant, mais ça peut être, tu pourrais faire des fresques et puis laisser des passants dans la rue terminer les yeux et la bouche, hein, pourquoi pas. Et là, c'est là où t'as ce nouveau regard finalement sur tout ce que t'as accompli pendant la fresque. Et la touche finale, c'est pas toi. C'est ça qui est rigolo.
Ouais.
J'allais te demander, c'est quoi justement ce que tu préfères avec les enfants? C'est les euros accidents, c'est.
Ouais, c'est. Déjà, ils se posent pas de questions quand ils dessinent. Ils y vont pas naïveté, mais ils sont tout frais. Quoi.
Bah, c'est l'innocence, c'est la fraîcheur, c'est ça.
Ouais, grave. Spontanéité, en fait, c'est ça qui est hyper cool, la spontanéité. Et puis, en fait, j'adore aussi les maternelles parce que j'ai l'impression que avant qu'ils apprennent à écrire, ils sont plus spontanés que. Après, à partir du CP, en fait, les adultes les ont déjà un peu briefés sur comment il faut dessiner un bonhomme.
Bien sûr. Ouais,
et puis
sûr.
Même les enseignants, moi, ça m'est arrivé de dire, mais on s'en fiche que le bonhomme, il ait six jambes. Et la maîtresse qui me dit, non, mais c'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il a pas conscience de son corps.
Oui, tu te confrontes à des questions, en fait, d'éducation qui ont été débattues longuement. Et toi, en tant qu'artiste, en fait, t'es là et tu n'as pas, en fait, tout ce bagage qu'ils ont avec des psychologues et compagnie.
Ouais.
Et ça te paraît invraisemblable, en fait, d'avoir ces prises de tête-là. Mais en fait, c'est juste parce que c'est un autre univers éducatif et que toi, bah, en fait, tu rentres en collision avec eux. Donc, en fait, il y a ce rôle-là chez l'artiste aussi de composer avec le programme éducatif, en fait, des enseignants. Et des fois, tu dis, what the fuck? Mais, je suis prestataire, donc je dois pas remettre en question toute l'éducation. Ouais. Mais c'est vrai que, ta remarque est judicieuse. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, clairement, avec des enfants, de leur proposer des trucs super délirants, et puis finalement l'animateur ou la prof qui vient derrière qui dit ouais, attention.
Ouais.
Mais ouais. Mais bon, ouais. C'est comme ça aussi. Les enfants, ils se constituent, ils se forment finalement de tout ce qu'ils voient à droite, à gauche. Enfin, leur univers, c'est pas juste l'école, quoi. Donc c'est aussi les rencontres avec d'autres milieux. Puis justement, bah les milieux de la créatif, et c'est pour eux, c'est fascinant. Et forcément, ils apprennent des nouvelles choses qu'ils voient pas à l'école.
Ouais.
Je trouve que c'est très complémentaire.
C'est clair. Après, j'ai aussi une petite anecdote qui est trop cool par rapport aux fresques. C'est que moi, quand j'arrive dans une école, les enfants, je les connais pas. Donc, en fait, je m'adresse à eux de manière assez naturelle. Je leur fais des blagues. Enfin, je suis hyper à l'aise avec les enfants. Donc, je leur parle pas comme à des adultes, mais je vais pas les prendre pour des bébés et tout. Et je vais parler à tous les enfants de la même manière. Qu'importe s'il y en a un qui a plus de difficultés ou pas. Enfin, j'essaye de me mettre à leur hauteur et pas utiliser des mots trop compliqués. Mais bref, dans cette école, en tout cas, il y a un petit garçon qui avait des problèmes de communication avec les adultes. Depuis le début de l'année, il parlait pas aux adultes, en fait. Mais moi, je le savais pas. Donc, en fait, je lui ai parlé comme aux autres. Sans lui laisser le choix, quoi. Je le savais pas. Dans cette école, on avait des petits modules en bois. Donc, par exemple, on avait une voiture en bois qui avait été découpée par un papa. J'avais fait des dessins par rapport aux dessins d'enfants et un papa nous les avait découpés, une fleur, un petit champignon. On avait peint. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo avec ces petits éléments en bois, des vidéos. Et donc, à un moment donné, comme je filme un peu les enfants à plein de moments, je donne la voiture à ce petit garçon et je lui dis, maintenant, tu fais la danse de la voiture. Donc, tous les enfants passaient et faisaient une petite danse comme ça en cachant leur tête. Et en fait, le soir, ce petit garçon, il est rentré chez lui, il a dit à la maîtresse, j'ai fait la danse de la voiture. Il a raconté ça à tout le monde. Et le lendemain, la maîtresse est venue voir en disant, mais Stéphie, c'est fou, qu'est-ce que t'as fait? Vous nous avez pas parlé depuis le début de l'année.
Wow.
Je savais même pas. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et c'est là aussi où on peut parler un peu, bon, j'aime pas trop employer des grands mots, mais d'art-thérapie, où en fait, ça peut faire du bien aussi aux autres. Et vu que moi, ben, J'étais pas la maîtresse, j'étais pas un parent, où je suis un peu jeune, donc
oui, ça passe mieux.
Ah, ouais. T'es une maman, toi, ou pas? Enfin, je sais pas, et qu'aujourd'hui, ah non, bah, j'ai pas d'enfant, je sais pas, ils me prennent un peu pour une copine. Ouais. Je suis aussi pas là pour faire la police. Dans les fresques, c'est pas à moi de me mettre en colère. Enfin, oui, vraiment, s'il y en a un qui fait n'importe quoi, je vais le fâcher un peu, mais j'ai pas ce rôle d'autorité. Et donc, peut-être que les petits se lâchent plus avec moi. Enfin, vraiment.
Ouais, puis tu crées des souvenirs qui sont ancrés aussi après et qui sont importants pour eux. Et voilà, bah, ça fait un breakthrough pour ce gamin. Ouais. C'est fabuleux.
Ouais.
C'est génial.
Ouais.
Non, c'est clair. Puis il y a sur les vidéos, je crois qu'il y en a qui m'ont laissé des commentaires en me disant « Oh, c'était moi je sais plus comment il s'appelait, le petit, mais c'était moi qui avais participé à cette vidéo et maintenant, je suis en CM2. »
C'est trop mignon.
Il était en grande section.
Ce seront tes futurs fans. Peut-être que dans 10 ans, ils achèteront encore tes produits et tout. Ils viendront te voir au plus de l'illustration. Ils achèteront tes trucs. Ils diront, tes filles, vous avez changé ma vie. Et là, tu diras, waouh.
Ouais, bah, ouais, j'espère. Après, quand je vais dans les écoles aussi, je passe du temps à expliquer que c'est un métier, qu'il y a des gens qui écrivent des livres. Si ça peut leur donner envie de dessiner et d'en faire leur métier, je trouve ça trop cool. Hein.
Ouais,
semer des petites graines.
Ouais, je vois chez toi là le livre derrière céramique et
ouais.
Et au tout début de notre échange, tu disais que t'aimais bien, que t'étais très heureuse quand tu faisais des activités artisanales, ça te permettait un peu de t'évader. Et puis il y a toute cette autre pan de ta production justement plus personnelle où tu t'émancipes justement des commandes, de tout ce qui est un peu stricto jeunesse. Et j'ai vu un truc que j'ai trouvé super intéressant sur ton Insta où t'as commencé bah, justement ce petit journal de bord là qu'on voit chez toi. Et dedans, en première page, tu disais, je vais pas tout lire, mais grosso modo, que, ben, voilà, pendant un an, t'allais te donner la permission de suivre pendant plusieurs heures des cours de céramique et de t'octroyer du temps libre pour sortir justement la tête de tout ce qui est commande, de la pression, de l'argent quelque part, et de te donner du temps pour toi, juste pour t'amuser, pour travailler. Et j'ai trouvé ça fort, le fait que tu parlais du fait de te libérer quelque part de cette pression de la commande. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vont écouter cet épisode et qui ont envie de développer des projets personnels et de développer peut-être qu'ils sont coincés, peut-être justement dans une étiquette et de pouvoir s'en émanciper. Mais il y a toujours cette petite voix lancinante qui dit, quand tu travailles pas sur tes projets de commande, tu mets pas de la bouffe dans ton frigo, tu vas pas payer ton loyer. Et je me demandais, toi, comment tu faisais un peu pour, parce que ta production, elle est hyper impressionnante, hyper riche. Comment tu fais pour jongler entre tes projets perso, tes projets de commande, comment tu fais?
Et puis j'ai envie de compléter ta question, Jérémy. Est-ce que Stéphie, tu te fais pas un cadeau à toi-même quand tu fais cette démarche-là?
Mais c'est une évidence, ça. Exactement. C'est une évidence.
Ouais, exactement. C'est un gros cadeau à moi-même. J'ai plein de travail de commande. Donc, comme tu dis, Jérémy, c'est hyper dur de s'enlever de la tête la petite voix qui dit tu devrais pas être là, t'as trop de retard sur tout ce que tu dois rendre et puis t'as 15 000 mails à répondre. Mais alors ma technique, c'est que depuis plusieurs années, c'est ce que j'explique dans le livre, j'essaye de considérer sérieusement mes projets perso. Et pour ne pas avoir cette petite voix dans ma tête qui me rappelle à l'ordre des commandes qui payent mon loyer, j'ai trouvé la technique, je m'inscris à des cours. Donc pendant 3 ans, je me suis inscrite à Paris Atelier. C'est super, j'ai réussi à faire financer des cours de tapisserie avec l'AFDAS, pour ceux qui connaissent pas. Tu fais un dossier et ensuite l'AFDAS, tu justifies que ça a un rapport avec ton activité et l'AFDAS te finance une formation. Donc pendant 3 ans, je suis allée tous les jeudis faire 6 heures de cours de tapisserie de haute lisse. Donc c'est une technique de tissage. Par exemple, vous pouvez voir là au-dessus de mon doigt, c'est un petit tissage que j'ai fait avec mon copain Sébastien Toiche, par exemple.
Ah ouais, génial.
Donc j'ai appris cette technique qui est hyper longue et laborieuse, mais en tout cas les jeudis, mon téléphone, il était éteint. Et j'étais consacrée rien qu'à ça. Et c'était ma journée à moi. Donc, j'en ai fait 3 ans. Ça m'a permis d'acquérir les bases. Et puis, ça faisait un moment que j'avais envie de revenir à la céramique. Donc, l'année dernière, je me suis inscrite à des cours de céramique. J'y allais tous les mardis matin. Donc, en fait, une demi-journée dans la semaine, ça passe, quoi. Enfin, pour moi, je pouvais me le permettre. Ça demande un peu d'organisation. Parfois, de dire au client, ben non, je suis jamais dispo le mardi. Ça se fait. C'était 2h30, donc c'est OK. Et puis, quand tu payes la céramique, j'ai payé mes cours. Donc, en fait, c'est un peu cher. Et ben, j'ai pas loupé une seule séance.
Évidemment, tu t'es engagé.
Ouais, c'est ça. C'était un engagement envers moi-même. Il y avait des horaires précis.
C'est comme le psy.
Un petit cadeau. Ouais, grave. En fait, je me suis dit, moi, j'aime pas trop le sport. Donc, je me suis dit, au lieu de me payer un abonnement. Ouais, c'est ça. Au lieu de me payer un abonnement à la salle de sport, et ça va m'ennuyer d'y aller. Je me sentais obligée. Bah, je me paye des cours de céramique. Et pendant 2h30, je pensais à rien d'autre qu'à ça. Et je pense que ça me permet aussi d'être plus efficace sur mon travail à côté.
Parce
que
c'est clairement méditatif, oui.
Voilà, je me suis aéré l'esprit. Pendant ces 2 heures, il n'y a que ça qui compte. Mais après, quand je rentre l'après-midi, je suis vraiment plus efficace sur mon travail. Voilà. Donc cette année, je continue, mais j'ai pris un forfait libre, donc j'y vais quand je veux. Le problème, c'est que du coup, j'y passe 6 heures à chaque fois.
Je me demande si c'est plus facile de s'octroyer ce genre de temps quand tu sais que tu as plein de commandes, justement. Tu sais, il y a ce côté genre, tu devrais répondre à tes commandes, qu'est-ce que tu fous là? Mais il y a aussi le fait que tu as la tranquillité d'esprit, que tu sais que tu as suffisamment de travail pour pouvoir à tes besoins et que du coup, tu peux t'offrir ce petit luxe. Qu'est-ce que tu en penses?
Je sais pas si l'argent rentre en considération. En fait, moi, j'en ai besoin pour ma santé mentale, je crois. Même si j'ai moins de travail à un moment donné,
tu vas toujours développer tes projets perso de toute façon.
Ouais, c'est ça, c'est parce que ça me fait du bien, comme d'autres vont faire du yoga ou de la méditation.
Toi, tu as réussi à allier le travail qui te vide la tête et qui te fait du bien à ta santé mentale, à ta pratique artistique. Du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. Parce que même quand tu bosses pas littéralement pour de l'argent, ça profite quand même à ton univers.
L'univers est très... hyper hyper concret, en fait. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de ta patte, si on sait pas que c'est toi et qu'on connaît un peu ton travail, c'est du Steffi. Je veux dire, t'as réussi cette magie là où finalement, quel que soit le support, c'est possible de t'identifier.
Ah ouais. Oui, c'est clair.
Et puis je vais dire que même mes projets perso, sur le coup, ça me rapporte pas forcément d'argent, mais ça va participer à ce que les gens me sollicitent, par exemple, que des musées me demandent. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui organisent des ateliers dans les musées, qui me suivent sur Insta, donc ils vont voir mes expérimentations et après ils vont dire ah cool, on va lui proposer de bosser sur cette expo. Comme ça, je me suis retrouvée à faire un atelier Punch Needle, donc c'est pour faire des petits tapis mais avec une aiguille à laine, à la Fondation Cartier pour l'expo de Damien Hirst.
Ah ouais, c'est cool. Fort. Bah ouais, c'est clair.
Voilà, en s'inspirant. Alors, je m'inspire pas de mon propre travail, du coup, je m'inspire du travail d'un artiste reconnu. Mais c'est trop chouette. Ou j'avais fait.
Peut-être que t'as des savoir-faire qui sont des skills qui sont rares en vérité, quoi.
Ouais, après c'est un peu l'art du temps, les tapis, la céramique.
Non, mais bien sûr,
tout le monde en fait.
C'est sûr, mais tout le monde en fait pour le plaisir, mais tout le monde n'en fait pas de façon aussi poussée, aussi investie pour aller vraiment dans le sens que tu as décidé au départ. Tu vois, il y a une conscientisation aussi de.
Prends, Steffi, prends. Il est sympa.
Merci,
alors.
Merci.
Non, mais c'est important parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que les créatives, en fait, parfois ont des skills comme ça un petit peu cachés et justement qui sont un petit peu des passions et qui mettent pas suffisamment en avant, alors que peut-être ça peut devenir en fait leur vecteur qui font que leur travail peut avoir du succès. Et ça, c'est pas négligeable, hein. On est d'accord, l'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent te permet d'investir, justement de pouvoir monter ton entreprise aussi, etc. Et donc quelque part, il faut que ça tourne, il faut que ça roule, il faut que ça soit beau et chouette et que les gens y soient touchés. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, pour que tout ça fonctionne, il y a comme une part quand même de comme tu disais, de formation, mais aussi une petite part de stratégie à mettre en place, que sinon tu fais n'importe quoi.
Bon, après moi, j'ai rien à calculer pour les techniques artisanales. C'est souvent, il y a une technique qui croise mon chemin, je me dis ok, j'ai trop envie d'apprendre ça, parce que quand je fais tout le temps la même chose, moi j'ai tendance à m'ennuyer. J'adore faire des tapis, mais si j'en faisais tous les jours, ça me saoulerait. J'adore faire l'illusionniste, mais c'est pareil, en fait faut que je change d'activité à chaque fois.
C'est ce qui fait que tu te ressources en fait, de passer d'un média à l'autre, et puis justement de passer d'un projet à l'autre très rapidement.
Mais c'est jamais trop calculé. J'ai l'impression que dès que tu fais les choses un peu par amour et avec passion,
mais c'est ça, la
ça
stratégie,
va déboucher
hein.
sur des choses qui vont te rapporter de l'argent. Alors que si tu commences quelque chose, par exemple, en disant « Ouais, je vais faire des tapis, ça va me rapporter trop de fric. »
Ouais, c'est souvent pas la bonne...
La stratégie, elle peut pas venir sur une feuille de papier au départ en disant « Je vais faire ça et ça et ça va marcher. » Non, en fait, elle vient au fur et à mesure parce que tu te donnes les moyens, et c'est pas les moyens financiers, c'est les moyens humains de le faire, en fait. C'est-à-dire que aller se taper 33 heures de formation pour faire de la céramique, etc. C'est pas anodin, quoi. Voilà. Et c'est quand je parle stratégie, c'est vraiment ça, c'est se donner ces moyens-là, parce que sinon on reste dans son canapé, on a plein d'idées et elles sortent jamais.
Il y a aussi surfer sur une mode. Tu sais, si tu surfes sur une mode juste parce que ça marche, mais que dans le fond il n'y a pas vraiment un truc raccord avec toi, c'est voué à l'échec, quoi. Il faut que ce soit quelque part aligné avec qui on est, ce qu'on fait, et qu'on n'essaie pas juste de profiter.
Ça marchera pas. Même par exemple pour les fresques, parfois on me demande mais comment t'arrives à faire des fresques dans les écoles ou à être sollicité pour des projets de fresques. Et souvent ce que je dis, c'est que avant d'être payé pour faire des fresques, en fait, va toi dans la rue ou dans des endroits où tu as le droit de peindre, passer des dimanches après-midi avec tes potes à t'entraîner et tu pourras tester tous les pinceaux, tout plein de marques de peinture. Du coup, le jour où on te demande un devis, tu as déjà acheté un peu de peinture, tu sais combien coûtent les pinceaux, tu sais à peu près combien de temps tu mets à peindre quelle surface. Mais vraiment faire d'abord les choses par plaisir et après ça débouche sur du boulot et des commandes.
En mode DIY, c'est un truc qui est hyper qui est hyper dans notre
ADN. En faisant qu'on apprend que le DIY devient du savoir-faire après.
D'ailleurs, en parlant de DIY, il y a un autre truc que tu as appris sur le tas et qui est un petit peu le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est Maison Ribambelle. De ce que j'ai lu et compris, t'avais jamais fait ça avant. C'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, c'est une boutique, tu nous en parleras, de papeterie et d'objets graphiques que tu fais avec ta sœur. Et c'est un peu elle, l'entrepreneuse du duo. Mmh. T'es un peu la caution arty. Et ta petite sœur, évidemment, elle a cette sensibilité aussi, mais elle a bossé dans des startups. T'as découvert des trucs, des fichiers Excel, des chiffres.
Ouais.
Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Parce que c'est une autre paire de manches. C'est encore un autre step dans le game, quoi.
Complètement. En fait, ça fait longtemps que je voulais monter une marque et je me disais, avec ma marque, je pourrais faire tout ce que je veux.
Tout ce que je veux, bien sûr.
Non, mais j'étais bien naïve parce que, je suis pas héritière de millionnaire et tout, donc je n'ai pas trop... j'avais pas des milliers d'euros à la base. Avec ma petite sœur, elle a fait une école de commerce et elle est plutôt du côté marketing. Donc, on a créé ça. On a créé une SAS, donc encore un nouveau statut. Moi, jusque-là, j'étais maison d'aide artiste, plutôt cool. Et une SAS, je me suis rendu compte que c'est énormément de frais d'avoir une société, que ce que tu gagnes, t'en reverses la moitié à l'État. Et que surtout, quand tu as une marque et que tu veux vendre en ce qu'on appelle B2B, business to business, c'est différent de quand tu vends des œuvres d'art à des particuliers ou que tu factures à des clients. Quand tu vends à des boutiques, les boutiques prennent une marge. Donc, par exemple, nous, quand on vend un objet à une boutique 10 euros, le prix de vente à la fin sera fois 2,5, donc 25 euros.
Ah ouais ?
Et nous, sur les 10 euros, en fait, tu dois enlever 20% de TVA.
Donc, tu touches 7 euros.
Voilà.
7 euros sur 22 euros.
Et puis, par exemple, nous, pour les guirlandes, on les coud nous-mêmes. Et puis, on a passé des commandes pour le papier, pour faire découper le papier. Donc, au final, tu dis, mais pour un objet qui est vendu 25 euros en boutique, je ne sais pas, à la fin, combien on a dans notre poche, peut-être 2 euros. Fin...
Ça fait un peu mal, non, quand on entend ça comme ça?
Franchement, c'est la réalité.
C'est ça, c'est la réalité, Jérémy.
Oh, punaise. Voilà. Non, ça ne me donne pas envie, moi.
Après... T'as des domaines où les marges sont plus importantes.
Et tu gagnes 50 centimes sur 25 euros.
Ouais, par exemple, je sais pas si vous connaissez l'émission des entrepreneurs sur M6. Mais c'est hyper intéressant et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. En fait, c'est des mecs, ils montent des boîtes et ensuite ils vont demander des financements pour faire grandir leur boîte et ils te disent nous on fait un savon, notre marge c'est x9 quand on vend en boutique, du coup il nous reste tant dans la poche à la fin, et les investisseurs ils investissent ou pas. Et souvent, enfin souvent de temps en temps, les marques, elles se font défoncer parce qu'elles n'ont pas des marges assez importantes. Et les investisseurs, ils disent, bah non, nous, on n'investit pas. C'est sûr qu'on va pas gagner de thunes avec ça. Votre truc, c'est pas rentable. Bon, nous, si on passait avec Maison Rébombelle, c'est sûr qu'on serait défoncé. Mais bon, comme je vous dis, moi, je fais d'abord les trucs par plaisir. Là, avec Joanne, ma petite sœur, c'est un projet parallèle. C'est parce qu'il nous permet de payer notre loyer. Mais bah, ça nous fait travailler ensemble. Voilà, j'ai découvert aussi, bah oui, voilà, les fichiers Excel, les gérer les stocks, voilà, que quand tu commandes, tu fais découper du papier, ben, tu t'envoies pour 3000 euros de commandes de découpe de papier, bon, des trucs, dont j'avais pas conscience. Après, là, je me rends compte qu'avoir une marque, ben, c'est quand même compliqué pour en vivre. Donc, on a toutes les deux du boulot à côté. Donc, ça nous permet de prendre ça plutôt relax, de le faire pour le plaisir. On est assez complémentaires aussi. Mais ouais, c'est, je trouve que c'est quand même pas facile, quoi.
Et c'est comment de travailler avec ta sœur? Tu sais, il y a tout le temps ce truc de, tu sais, monter une boîte avec un membre de sa famille ou son meilleur ami ou sa meilleure amie, que sais-je. C'est comment de bosser en famille?
Ah ouais, moi, ma petite sœur, elle est trop cool. Elle est, je dirais que ça, elle me met un peu les pieds sur terre aussi. Moi, je vais lui proposer des trucs et, bah, par exemple, elle va me dire « Ah, mais non, mais ça, on peut pas du tout le faire. Ces filles, regarde, si on veut vendre ce truc tel prix, ça ne peut gagner 1 euro, ça sert à rien de le faire. » Donc, bon, parfois, elle me casse un peu dans mon délire, mais bah, elle est du côté business, quoi. En fait, à quoi ça sert de faire des choses si, en fait, tu les fais à perte?
Ouais.
Alors que moi, en tant qu'artiste, je vais me dire, ah ouais, j'ai envie de faire des tapis, ok, je vais passer pour 2000 euros de laine. Ah bah, j'ai vendu aucun tapis, zut!
Ça t'est arrivé?
Ouais, bah, les tapis, c'est dur à vendre aussi, parce que la laine coûtait extrêmement cher.
Ouais, ça, c'est du produit de luxe, ouais.
Ils sont super beaux, en plus, les tapis.
Ils sont magnifiques.
Alors, c'est... Moi, je les vends à un prix, mais que ma cible n'a pas forcément ce budget pour acheter des objets aussi chers. Bon, après, j'en ai vendu quelques-uns, ça me permet de retomber sur mes pattes. Mais au début, je me disais, ah ouais, cool, je vais plus faire que ça. Et ça... Non, en fait, non. ou comme la céramique, par exemple. Ma petite sœur me dit, non, mais tu te rends compte, tu passes 2 heures à prendre une tasse, mais c'est pas du tout rentable. Bon, on s'en fiche, vu que c'est pas mon activité principale. Oui, oui. Si je voulais faire vraiment une production de céramique, en fait, la tasse, faudrait la vendre minimum 120 euros pour m'y retrouver. Donc, oui. C'est ça qui est hyper cool aussi de bosser avec ma sœur, c'est qu'elle elle me remet un peu les pieds sur terre. Si on a une boîte, une société, je peux pas me permettre de faire ce que je fais sous le nom de Stéphie Brocoli toute seule, ou c'est pas très grave si je suis pas très rentable sur certains projets perso. Je sais que ça va être rentable d'une autre manière parce que les clients vont me solliciter pour un projet.
Ouais.
Mais ouais, c'est un délire. En fait, de vendre en B2B, ça, j'en avais pas trop conscience. Après, peut-être que stratégiquement, bah, les guirlandes en papier, c'est trop de travail par rapport au prix qu'on peut le vendre. En plus, là, maintenant, avec l'inflation, bah, le papier, on l'achète 2 fois plus cher qu'avant. Mais nous, on peut pas. Nos guirlandes, elles sont à 21,50, je crois.
Tu peux pas les vendre à 42.
Bah non, je peux pas les vendre à 42. Donc, faut qu'on trouve moyen. Hein. Ouais. Voilà, il y a plein de boîtes, je sais, qui ferment à cause de l'inflation parce que le coton coûte beaucoup plus cher, le papier aussi. Donc on va voir où nous mène Maison Ribambelle. Je ne sais pas si on va continuer à faire des guirlandes très longtemps parce que c'est compliqué, mais peut-être qu'on va privilégier de la vente aux particuliers. Moi, j'aimerais bien faire des vêtements brodés, trouver peut-être un autre système en dropshipping où tu as des boîtes qui te fabriquent les trucs, qui les expédient aux clients. Enfin, je sais pas, en fait, je pense qu'on va rebondir et voir comment on peut être un peu plus rentable.
c'est le challenge de nos métiers.
Ouais.
Ouais. On va peut-être passer aux petites questions des auditeurs pour un petit peu terminer l'émission. Oui. Stéphie, il y a eu des questions dans le chat. Si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les remettre. On va peut-être remonter dans le chat, mais on verra peut-être pas toutes vos questions. Donc, si vous avez vraiment des questions qui vous brûlent les lèvres, allez-y, c'est maintenant. Stéphie est encore avec nous pour un petit peu de temps. Et puis,
j'en profite pour poser la mienne. Il y a quelque chose que tu disais sur la simplicité, qui est quelque chose d'assez important dans ton approche graphique. Et tu disais qu'en fait, c'était compliqué de faire simple. Et ça, je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu.
C'est compliqué de faire simple. Même souvent, quand on voit mes dessins, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais je pensais pas que ça prenait autant de temps. Ton dessin est tellement simple, je pensais pas que ça prenait autant de temps. » Mais en fait, si.
C'est sûr.
Par exemple, pour mon livre « Raconte-moi », en fait, c'est 26 petites histoires documentaires. Si vous regardez mes dessins, même moi, en passant en librairie, je me dis « Oh, ça va, c'est rapide à faire. » En fait, c'est compliqué parce que même mes phrases, j'ai une dizaine de toutes petites phrases. Mais en fait, pour arriver à dire la bonne chose avec peu de mots, choisir les bons mots, que ça sonne bien à l'oreille, mais en fait, je me prends la tête de ouf. Enfin, par exemple, pour cette double page, si vous avez l'occasion de les regarder, ça me prend environ 3 jours pour une double page.
Ah ouais.
Sans compter tout le temps que j'ai passé sous ma douche et dans les transports à me dire alors brainstorming, qu'est-ce que je vais raconter.
Oui, c'est tout ce temps de créativité en fait qui tourne en fond quoi dans le cerveau.
Ouais.
Alors on avait Nictou22 qui nous posait la question, un conseil pour se lancer dans le monde de l'édition pour enfants.
Eh ben, je dirais produire des images en projet perso déjà. Et ensuite, aller démarcher les éditeurs, envoyer son book aux maisons d'édition. Voilà.
Ça paraît simple, dit comme ça.
Oui, mais elle vient de te dire avant que c'était compliqué d'être simple.
Oui, c'est vrai, c'est compliqué de faire
simple. Vous démêlerez. Hein.
Bah, par exemple, parfois, il y a des gens qui me demandent, qui me disent « Ah, j'ai un projet de livre, comment je peux faire pour les éditeurs ?» Et souvent, ce que je dis, c'est que pour les éditeurs, par exemple, je pense que ça dépend des projets, mais que ça ne sert à rien d'illustrer tout le livre.
C'est un super conseil.
Juste une attention, ouais.
Ouais, par exemple, tu fais 3 doubles pages avec ton texte, t'envoies ça aux maisons d'édition. Bah, je ne suis pas éditrice, hein, mais je pense que ça peut déjà leur permettre de se projeter ou pas. Et toi, ça t'évite de bosser pour rien si le projet ne leur plaît pas. Aussi, il faut savoir que les éditeurs, moi en tout cas, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, les éditeurs, ils ont toujours... leurs mots à redire. Il y aura toujours des modifications. Même quand j'y suis allée avec mon premier livre, Il a neigé ce matin, et ben entre la maquette que j'ai imprimée moi-même, donc là c'était tout l'inverse de ce que je vous dis, hein, j'avais fait tout le livre, et ben on a changé. Au début, toutes les pattes des animaux étaient toutes droites pour des raisons techniques que je pouvais pas faire autrement au gaufrage. Les pattes des animaux se faufilaient comme ça. Donc même sur un projet qui existait déjà, on a fait des changements. Je pense que chaque illustrateur a sa façon de faire et qu'il y a des illustrateurs pour qui on prend les livres tels quels, mais même sur les textes, c'est possible que l'éditeur dise « Ah ouais, mais la fin de ton livre, moi j'imaginais pas ça comme ça ». Par exemple, dans « Il a neigé ce matin », moi à la fin, t'avais des bottes avec une tache de sang. En fait, c'était ce que je voulais raconter, c'était le chasseur qui avait tué tous les animaux. Horrible. Et l'éditeur m'a dit « Ah ouais, c'est un peu dur. »
On va peut-être essayer de le vendre, alors du coup, on va changer la fin.
Ouais, donc ils m'ont dit « Ah, peut-être ça peut être des bottes d'enfants qui sortent de chez lui. » Donc on a changé ça, ces détails. Mais ouais.
Il y a des éditeurs qui seraient preneurs de ce genre de fin. Tout dépend de la maison d'édition.
Oui, voilà.
Bon, la question parle quand même des livres jeunesse.
Alors, une toute dernière question qui est très simple, comme une évidence, mais qui me paraît être une bonne question de fin, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer comme illustratrice aujourd'hui ? Question méga vaste, hein, mais...
Produire des images et les poster sur Insta. Enfin, je sais pas combien de temps Instagram va encore durer, mais je pense que c'est une bonne plateforme pour montrer son travail, pour être visible.
Mais l'abondance en fait de d'illustrateurs, d'illustratrices sur Instagram n'empêche pas justement la visibilité. Toi qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Parce que bon, tu as un compte qui est très suivi, hein, pour une illustratrice, c'est vraiment pas mal déjà. Pour quelqu'un qui démarre dans le game, qu'est-ce que ce serait vraiment de bien montrer un univers,
t'es une super communicante. Tu postes à mort, tu
les gens, voilà,
bien.
C'est ça le
Ouais, moi je dirais Instagram. Enfin, je sais que mes éditrices à la pause café, elles sont sur Insta en fait. Et c'est comme ça qu'elles dénichent des jeunes illustrateurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des opportunités d'expo.
Vaut mieux y être que pas y être, quoi. C'est ce que tu
ouais, dis, c'est ça.
Pour commencer.
Après, pour bien communiquer sur Insta, moi, je sais pas, j'ai autour de 20 000. Mais en fait, si j'ai 20 000, c'est parce que j'y suis depuis le début. Enfin, c'est pas tellement.
Oui, tu connais bien les codes. Par rapport... les codes, t'es régulière, tu
en fait, je sais pas, ça dépend. Parfois, je suis pas du tout régulière. Puis après, je vais me dire, allez, cette semaine, tous les jours, je poste un truc. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui plaît sur Insta, c'est aussi un peu de montrer l'envers du décor.
T'incarner un petit peu, tu veux dire?
Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas tellement faire des facecam et me dire ah, salut Insta, blablabla. mais par contre, mettre mon téléphone dans un coin pendant que j'imprime un truc au pochoir. Ouais.
Le film. Genre, tu as quand même la présence d'esprit de poser ton téléphone quelque part, de te filmer en train de faire un work in progress et tout. C'est quand même une conscience. Quand je fouillais un peu ton compte Insta, je me disais oh là là, ça me gonflerait de tout le temps cette présence d'esprit de poser le téléphone là, de me filmer, de c'est qu'on va quand même tout le temps se mettre un peu en situation.
C'est quand même du.
Mais t'as une sorte de gymnastique du coup en fait, c'est des habitudes que t'as mis en place pour pouvoir justement alimenter sans non plus que ça te prenne la tête.
Ouais, c'est ça. Enfin, maintenant, de nos jours, c'est quand même facile de trouver des pieds qui permettent de te filmer de dessus, de filmer en accéléré, d'avoir une petite télécommande. Moi, au final, j'ai un petit pied grippe avec des petites boules, là. Bon, c'est pas ouf, là. J'ai commandé un nouveau truc où tu peux mettre ton téléphone bien comme ça par-dessus. Mais au final, tu vois, quand je bricole, je me dis, de toute façon, je vais passer 3 heures à faire mon masque en papier mâché. Je peux bien mettre... Mon appareil photo dans un coin et au final je vais filmer je sais pas moi pendant 10 minutes sur les 3 heures où j'ai bricolé et après du coup tu te dis cool, c'est du contenu facile parce que dans tous les cas je l'ai fait mon loisir créatif, donc j'ai un contenu facile, les gens ça les intéresse pas mal de voir toutes les étapes,
c'est clair.
Donc ouais, moi j'ai un peu pris cette habitude, mais parce que j'aime bien ça. Et après, je me dis, ah cool, je vais pouvoir faire à la fin, faire mon petit réel. Donc, ça va me prendre 1 heure de faire mon petit réel. Et puis après, c'est un peu pour l'ego, mais c'est encourageant. Toi, ça te donne aussi envie de continuer à faire des trucs, de dire, ah cool, tiens. Enfin, moi là, par exemple, la dernière expérimentation que j'ai faite, c'est des masques en papier mâché. Bon, ils sont encore en fabrication, ça prend un temps fou. Mais je sais pas, j'ai mis une vidéo où je collais des bandes de papier mâché et j'avais... 30 messages. Et du coup, t'es là, sur un truc que je pensais hyper intéressant. En fait, ça intéresse de ouf les gens. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, ça me donne trop envie d'en faire. Donc, moi, ça me fait aussi plaisir. Et un petit commentaire.
Ça fait toujours du bien.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai un peu pris cette habitude. Mais au final, c'est une petite contrainte, mais pas tant que ça. Tu vois, c'est ce que je dis. Sur une après-midi où tu bricoles, tu filmes pendant 10 minutes. Si t'as déjà ton matos à disposition, ça te prend 3 minutes de trouver l'angle qui va bien. Parfois, je sais pas, si tu bricoles en slip, tu dis « Oh zut, faut que je m'habille !» Des trucs comme ça, mais c'est pas si difficile. Et puis moi, ma page Insta, elle est pas du tout paramétrée à l'avance. Enfin, je sais pas ce que je vais poster demain. J'improvise un peu sur le moment. C'est pas très pro par rapport à plein d'autres illustrateurs ou entrepreneurs qui vont avoir des outils pour prévoir une semaine à l'avance, les posts qui vont se poster automatiquement.
Je crois que ton univers, il bosse pour toi parce que, comme je disais tout à l'heure, il est très très lié. Tout ce que tu fais est connecté. Et finalement, quand tu postes quelque chose, ça se connecte aux autres carrés que tu as déjà postés. Et du coup, le gaufrier lui-même, il prend vie. Et ça marche quand on met vraiment en avant son univers et que l'univers, en fait, il prend toute ta vie, quoi. Parce que tout ce que tu fais, finalement, il y a ces couleurs-là qui reviennent chez toi, qui sont récurrentes. Il y a ces formes aussi qui sont obsessionnelles. Et ça, c'est intéressant parce que, mine de rien, c'est ça qui fait aussi la bonne com derrière. C'est que ce que la page, elle invite comme ça à plonger dans un univers de fou, quoi. Voilà.
Ouais, et par exemple, ma page Insta, c'est quasiment que mes projets perso. Je mets pas du tout mes projets de commande ou très rarement. Là, j'ai mis mon dernier livre, Raconte-moi, parce que c'est quand même entre le projet perso et la commande, vu que j'écris moi-même les histoires, mais j'ai quasiment pas les pages que je fais pour la presse. En fait,
Pourquoi tu les montres pas?
Parce que pour moi, Insta, c'est ma page de récré et c'est consacré à mes expérimentations.
C'est bien, t'as mis un cadre, en fait. C'est ça. T'as mis un cadre, une limite et tu mets pas tout et n'importe quoi ce que tu fais sur ta page. Tu fais ces choix-là, en fait. Ça, c'est pas mal aussi de faire des choix. Je pense que ça fait aussi partie d'une... même si on n'y pense pas, ça fait quand même partie aussi d'une bonne stratégie de se dire, bah voilà, je fais quelque chose de cohérent et avec moi-même.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et toi, si j'ai illustré, presque mon style en illustration est différent de mon style en loisir créatif et expérimentation aussi. Donc, je trouve que ça va pas toujours bien côte à côte. Et puis, en fait, si tu as envie de voir plus mes projets de commandes, tu peux aller sur mon site dans la catégorie illustration où là, je mets un livre que j'ai fait pour un éditeur coréen, des livres pour bébé. Bon, mon site, j'ai pas mis tous mes projets, j'en ai encore plein à mettre. Mais mon site est là pour compléter mon Insta. Et mon Insta, ouais, c'est ma page... ma cour de récré, quoi.
Ouais. Plaisir. Nous, le podcast, c'est aussi notre cour de récré. Et on était très, très contents, Stéphie, de faire notre première récréation avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphie.
Et si vous êtes dans les coins de Montreuil-Bagnolet, bah, regardez autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses de Stéphie dans la rue.
Vous allez peut-être la croiser.
Non, ouais, je n'ai pas peint dans la rue par là-bas. Mais si vous voyez quelqu'un sur un vélo avec une casquette jaune, c'est sans doute moi.
Trop bien. Ben, on vous remercie tous d'avoir suivi cette première interview de la saison 5. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos échanges dans le chat. Je l'ai déjà dit, mais merci Stéphie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Laurent, merci Jérémy et merci à tous ceux qui ont écouté mes histoires. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Oh là là,
ça m'arrive.
Alors pour tous ceux... C'est des très bonnes bêtises. Pour tous ceux qui nous suivent, donc on vous donne rendez-vous dans une semaine, pour les membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee, donc pour rencontrer Philippe Jacquelet, qui est agent d'illustrateur à l'agence Costume 3 pièces. Ça, c'est un épisode exclusif que vous pourrez découvrir sur une autre plateforme que Twitch. Et dans deux semaines, on vous donne rendez-vous avec Aurore Bay, qui vient nous parler de la différence entre être un bon créatif et être un bon communicant. On en a un tout petit peu parlé avec Stéphie, justement, sur la fin. Je pense que c'est tout un sujet pour les créatifs, tout un programme. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis à très très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Moi, je trouve que j'ai tout pour faire une idole. De mes chansons, j'écris musique et paroles. Je devrais déjà gagner des sommes folles. Et mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas un sou. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Oh, 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 oh. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Yeah, 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 yeah. J'ai tout pour plaire, je chante comme une casserole. J'ai 14 ans, je vais encore à l'école. J'ai le regard flou et la tête un peu molle. Oui, mais seulement je connais pas grand Manitou. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Oh, 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 oh. Pourquoi pas moi? Très bien. Yeah, 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 yeah. Si je pouvais séduire quelques journalistes, en quelques semaines je deviendrais une artiste. À la radio je serais la reine du twist. De mes millions je ne verrais pas le bout. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Wow, 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 wow. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Yeah, 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 yeah. J'aurai des photos en train de faire la cuisine. J'ferai de la publicité pour la margarine. Et ça me rapporterait un tas de sous. Pourquoi pas moi ?